Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
Place à notre invité politique du soir, il est député de la première circonscription de Corse du Sud et président du groupe Horizon. Bonsoir Laurent Marcangeli.
Bonsoir.
Dans cette assemblée qui, contrairement à ce qu'on dit, n'aura pas des allures de 4e République, mais pas non plus la même facilité que dans une majorité absolue, quel rôle pour Horizon, le parti d'Édouard Philippe, qui compte 30 députés sur 577 ?
D'abord, être fidèle au message que nous avons porté depuis la fondation de notre parti au mois d'octobre dernier, à savoir essayer de définir une stratégie pour notre pays qui a besoin, je le pense, d'avoir des idées claires vu la situation politique qui est la nôtre. Et surtout,
Ça veut rien dire, les idées claires.
Les idées claires, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire où on va en matière de sécurité, ça veut dire où on va en matière de dette publique, ça veut dire où on va en matière d'éducation, où on va en matière de santé. Et surtout, l'autre élément de l'ADN de notre parti et de la manière que nous allons avoir de travailler à l'Assemblée nationale, c'est essayer de ne pas être sur la punchline pour la punchline, c'est essayer de se départir de la petite phrase.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est souvent ça dans une assemblée parlementaire ?
Excusez-moi, mais on a eu droit à une semaine qui était quand même haute en couleur.
C'est vrai.
Voilà. Et je crois franchement que
c'est vrai,
on est parti pour avoir pas beaucoup de fonds, pas beaucoup de stratégies, beaucoup de petites phrases, beaucoup de scandales. Et en tout cas, il ne faut pas compter sur Horizon pour être dans cette manière de faire.
Laurent Marcangeli, est-ce que d'une certaine manière, vous êtes le fer à souder de la Macronie et des LR ?
Nous allons essayer de rapprocher des points de vue dans l'intérêt du pays. Je pense que sera nécessaire non seulement d'aller vers la droite, mais parfois également de convaincre les hommes et les femmes de bonne volonté à gauche pour construire des majorités d'idées texte par texte, puisque malheureusement, nous le regrettons, la grande coalition n'a pas été possible.
Mais vous dites plusieurs choses. Vous dites d'abord, et je reprends un mot qui là pour le coup est vraiment plein de sens, c'est loyauté. Vis-à-vis, vous dites loyauté du gouvernement, vis-à-vis du président de la République, mais la loyauté, elle est sans limite, sans aucune limite.
La loyauté, c'est comme dans la vie, on est loyaux vis-à-vis de ses amis et parfois on peut être loyal tout en partageant un désaccord. On n'est pas inféodé, c'est ce que je veux dire, puisque ce n'est pas dans l'ADN non plus de notre parti de l'être. En revanche, on a partagé la campagne du président de la République et je vous rappelle qu'on a signé une plateforme commune, on s'est présenté dans les 577 circonscriptions avec un projet qu'on va devoir défendre, même s'il va falloir l'amender, eu égard aux résultats que les Français ont souhaités.
Oui, parce que si on vous fourgue un texte aux antipodes de vos convictions, peut-être que ça n'arrivera pas, mais si ça se passe, qu'est-ce que vous allez faire ?
Ah, je suis également membre d'un parti politique qui donc se veut loyal, mais libre. Libre et, comme je vous l'ai dit, nous avons les idées assez claires sur un certain nombre de sujets. Et je ne pense pas qu'il soit dans l'intention du gouvernement ou du président de la République de nous fourguer, comme vous nous le dites, un texte qui soit aux antipodes de nos idées.
Bah. Vous savez, Marcangeli, depuis le temps que je fais ce métier, on en a vu des choses. Donc je me permets, je fais référence à la semaine politique que vous m'avez refourguée d'une certaine manière aussi. Donc effectivement, il peut se passer parfois des choses qui ne sont pas prévues et vous me donnerez raison aussi. Vous dites, nous sommes l'aile droite de la majorité. Mais par exemple, ni Bruno Le Maire, ni Gérald Darmanin ne sont chez Horizon. Et si vous êtes l'aile droite, où est-ce que vous situez le président de la République ?
Le président de la République, il est au-dessus de tout ça.
Ah bah, j'étais sûr. Vous allez me citer le préambule de la Constitution.
Le président de la République, il est au-dessus de tout ça. Il est le président de tous les Français. C'est d'ailleurs très difficile d'être président de la République. Je ne vous le cache pas. Il doit être l'homme de la nation. Il doit faire face à de nombreux défis. Et nous, nous sommes organisés dans des groupes politiques, à l'Assemblée nationale et dans la vie politique avec des partis.
Je vais vous poser la question autrement. Comment est-ce que vous réagissez quand certains observateurs, et certains d'ailleurs détraqueurs d'Emmanuel Macron, disent que c'est un président de droite ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'au moins, en partie, c'est un président de droite ?
Moi, j'essaye de voir ce qu'Emmanuel Macron a fait depuis le début de son engagement dans la vie publique. Je crois que c'est quelqu'un qui a plutôt essayé de dépasser un certain nombre de clivages. Tout comme, d'ailleurs, à titre personnel, j'ai été maire jusqu'à 2 jours sur ma ville ou sur une intercommunalité. Parfois, on dépasse un peu tout ça pour aller dans le sens du progrès et de la réussite pour son territoire. Je crois qu'Emmanuel Macron essaye de faire ça depuis plus de 5 ans au niveau du pays tout entier.
Vous dites, nous, on est à droite, le MoDem plus centriste. Est-ce que ça veut dire que Renaissance, donc le reste, est à gauche ?
L'origine de La République En Marche était majoritairement au départ située sur un espace social-démocrate. Ce n'est pas une injure de le dire, et c'est très bien d'ailleurs comme ça. Ensuite, il y a eu des élargissements qui ont été, je pense, rendus faciles par la manière qu'Emmanuel Macron a eu de faire de la politique, de se présenter devant les Français. Et donc, des gens plus à droite l'ont rejoint. Donc il est sur un espace central assez large, qui va de la social-démocratie à un centre droit dont je fais partie.
Le Rassemblement national compte 89 députés, c'est du jamais vu. Hein. Marine Le Pen est très critique vis-à-vis du président de la République. Elle a néanmoins appelé à une opposition constructive. Sur quoi cela va se jouer ? Sur les amendements ?
Écoutez, moi j'attends de voir les propositions qui seront faites par le Rassemblement national. J'ai dit déjà chez certains de vos confrères que si demain le Rassemblement national était susceptible sur un texte d'apporter une amélioration pour la politique que nous souhaitons mener, je ne ferai pas partie de ceux qui diront « c'est le Rassemblement national qui le propose, il faut le rejeter ». Je regarderai le texte, je regarderai ce qu'il apporte ou ce qu'il n'apporte pas et je voterai en conséquence.
Donc vous n'aurez pas ce cordon sanitaire, puisque c'est l'expression qui vient le plus souvent, concernant le Rassemblement national ?
Moi, le cordon sanitaire, je l'ai par rapport à un certain nombre d'idées que prône le Front national ou le Rassemblement national.
Comme quoi ?
La sortie... ne pas respecter les traités européens et donc sortir d'une manière ou d'une autre de l'Union européenne, même s'ils s'en défendent, ce n'est pas véritablement l'ADN de mon engagement politique.
Il y a exactement la même chose chez la NUP, puisqu'en plus, ils l'ont dit, qu'il y aurait une désobéissance. Ça faisait partie justement des points de friction entre le Parti
NUP,
socialiste et LFI.
Mais sur la NUP, et notamment LFI, on pourrait en dire encore plus, parfois.
Mais lorsque pourquoi est-ce qu'on parle de cordon sanitaire du côté du RN et pas de cordon sanitaire du côté de la NUP ?
Moi, je ne vais pas reprendre des discussions qui font passer, penser aux années 90 et qui ont donné d'ailleurs 90 députés au final et deux finales d'affilée de l'élection présidentielle avec Marine Le Pen qui a quand même obtenu 42%. On voit bien que le cordon sanitaire et la diabolisation, ça ne sert à rien. On voit bien que quand notre jeune Benjamin, député, ne serre pas la main de ses collègues qui sont tout aussi légitimes que lui parce qu'ils sont Rassemblement national, ça ne sert à rien. Et que cette espèce de théorie visant à dire qu'il ne faut pas parler avec le Rassemblement national, il ne faut pas débattre avec le Rassemblement national, il faut ignorer le Rassemblement national, ne marche pas. Parce que des millions de Français votent pour ce parti politique. Il faut plutôt se demander pourquoi nous en sommes arrivés là.
Éric Coquerel va présider la commission des finances. Est-ce que vous allez scrupuleusement surveiller son fonctionnement ?
Moi, je vous dirais qu'Éric Coquerel, il est parlementaire. D'abord, il est légitime. Il a été élu par la commission. Ensuite, effectivement, il a plus, selon moi, de devoirs que de droits.
Voilà, c'est-à-dire
Il a un devoir. Il a un devoir de remplir correctement cette fonction, qui est une fonction prestigieuse, mais qui est également une fonction importante dans le fonctionnement, justement, de l'Assemblée nationale. Les lois de finances, ça compte. Les responsabilités qu'a le président sont importantes. Et j'espère qu'il en tiendra compte dans sa manière de présider. Je ne fais pas de procès a priori, je le dis très clairement. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'il a dit une fois qu'il a été élu. Il a dit qu'il présiderait correctement. Il a pris un certain nombre d'engagements devant les médias et devant la commission qu'il a élue. Donc voilà, moi, je ne fais pas de procès a priori. Je déteste qu'on m'en fasse, donc je n'en fais pas aux autres.
Idem sur les rumeurs concernant Éric Coquerel.
Alors, les rumeurs, elles viennent de son camp, si je puis me permettre. Je ne le connais pas personnellement. Je ne suis pas amené à le fréquenter. Et sur ce qui concerne la vie personnelle, je serais bien normal de pouvoir vous dire qui est Éric Coquerel.
Une dernière question, Laurent Marcangeli, parce que d'abord, la Corse est un territoire de destination estivale. Vous le savez mieux que personne, après avoir été effectivement le maire d'Ajaccio. Cette grève qui tombe à l'aéroport de Roissy, le plus gros aéroport de France, un jour de départ en vacances, quelle est votre réaction ?
J'ai toujours une réaction d'abord de sympathie pour celles et ceux qui voient leurs vacances gâchées par ce type de mouvement. Ce sont des choses qui arrivent souvent dans notre pays. L'objectif est évidemment de perturber le trafic aérien en départ de vacances. Je ne pense pas que ce soit de nature à rendre les Français plus heureux, plus contents, et qu'on a toujours d'autres solutions que de bloquer, alors que les Français ont bien besoin de repos. Ils ont vécu des moments difficiles. Le fait de partir en vacances est toujours une joie. Et je pense que c'est un mauvais coup pour le moral de nos compatriotes, et également aussi pour notre économie.
Est-ce que in extenso, ce n'est pas aussi le reflet de ce qui se passe plus généralement ? Vous savez, on dit souvent que les décisions elles devraient avoir lieu à travers la démocratie, à travers justement la démocratie représentative, le Parlement, mais parfois ça se règle dans la rue parce que certains vous diront on n'a pas d'autre moyen de nous exprimer puisqu'on ne nous écoute pas.
Moi, je pense que tout doit se dérouler dans le terrain démocratique. Je fais partie de ceux qui le considèrent ça. Je serai toujours partie de ceux qui feront en sorte que les choses n'aillent pas dans la rue. Après, le droit de manifester, c'est un droit reconnu par notre Constitution, par nos textes fondamentaux. C'est un droit qui doit être préservé et défendu. Mais je fais partie de ceux qui essayent toujours de faire en sorte que ça ne finisse pas comme cela. Donc, ça demande du dialogue. Ça demande une démocratie sociale également, peut-être un peu plus forte. Et ça demande aussi à ce que les Français... je pense, reprennent le goût de parler ensemble parce que nous le sentons. Il y a quand même un climat très pesant. C'est un danger pour notre pays. Je sens beaucoup de colère dans le cœur de nos concitoyens. Et c'est à nous, politiques, d'essayer, avec les autres forces sociales de ce pays, de la société civile, des syndicats, de celles et de ceux qui comptent, pour essayer de recoudre un peu ce tissu français parce qu'il est abîmé. Et en tant que Français, je suis assez inquiété. Et inquiet par la situation dans laquelle nous sommes. Mais il faut travailler. Et comme je suis un optimiste, je pense que nous avons de quoi le faire.
Y compris à travers ce CNR, ce Conseil national de la refondation.
Ça pourra prendre le nom que ça voudra. Le président a voulu qu'il s'appelle comme ça, parce qu'il voulait faire une référence à des temps particulièrement troubles, oui. Ceux de l'après-guerre. Nous ne sommes pas dans l'après-guerre, mais nous sommes dans une situation, comme je vous le disais, qui est particulière. Nous avons vécu une épidémie mondiale. L'économie ne va pas au mieux. Vous avez la guerre en Europe pas très loin de chez nous. La situation est quand même très tendue. Et je crois qu'il va falloir faire de preuve de beaucoup de sérieux, mais également de beaucoup de travail. Et le CNR, c'était surtout l'alliance des communistes, des gaullistes, des chrétiens démocrates, des socialistes pour reconstruire le pays après la guerre. Mais ça tombe bien, nous avons une Assemblée nationale qui représente beaucoup de couleurs. Et je crois que l'intérêt du pays doit l'emporter sur les intérêts partisans.
Merci beaucoup, Laurent Marcangeli, d'avoir été en direct sur Europe 1, député de la première circonscription de Corse du Sud et président du groupe Horizon. Dans un instant, ça fait débat.